Lorsque tu as regardé par la fenêtre, tout benaise,
je me disais qu'on est bien ici.
Ah ouais. Tu sais, moi, je me dis la même chose quand j'écoute l'agité du local.
Aujourd'hui, on se raconte le monde, ce monde d'aujourd'hui, ce monde dans lequel on se trouve et on le regarde. On le pense avec des yeux d'enfant même. On en parle sans l'idéaliser, mais avec quand même une certaine douceur, une certaine poésie. Et ça, grâce à mon invité d'aujourd'hui, Oriane Marcilli, de son nom de scène Ladylike Lily, qui jouera son spectacle Les Graines Oubliées au 40 le 6 mars dans le cadre du festival Monde dans le Bus. Souvenez-vous, on a d'ailleurs reçu Simon Hermine du 6x4 mardi qui nous présentait le festival et son histoire. L'émission est bien évidemment disponible en podcast sur notre site internet l'autreradio.fr. Dans la suite de cette émission, nous irons du côté de Nantes pour notre reportage Pensée locale de la semaine et nous parlerons du réseau européen Usit qui confectionne des cartes alternatives gratuites pour s'approprier la ville autrement. Bienvenue à vous, amis auditeurs, et bienvenue à toi, Priscilla.
Bonjour.
Comment tu vas aujourd'hui ?
Excellemment bien.
Donc on te retrouve pour ta chronique juridique en fin d'émission. Mais tout de suite, je vous propose de passer à notre invité du jour. Bonjour Oriane Marcilli, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ton nom d'artiste est Ladylike Lily et tu joueras donc ton spectacle Les Graines Oubliées le 6 mars à 15h au 40 à Laval dans le cadre du festival Monde dans le Bus organisé par le 6x4. Alors c'est un spectacle à destination du jeune public à partir de 5 ans qui est un spectacle qui mêle conte musical et théâtre d'ombre. Ton spectacle, je le disais, s'appelle Les Graines Oubliées. Peut-être que tu peux nous donner quelques pistes sur l'histoire qui va nous être racontée.
Bonjour à tous. Alors, Les Graines Oubliées, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un monde très pollué et dont ma maman tombe gravement malade. Et cette petite fille, elle va donc partir à la recherche d'un remède. Et c'est via cette quête d'un médicament qu'elle va découvrir le monde sauvage et plein de choses qu'elle n'a jamais pu voir auparavant parce qu'elle est dans un monde contrôlé et un monde qui contrôle le vivant. Donc c'était l'occasion pour moi d'aborder deux thématiques qui sont super importantes à mes yeux et qui sont un peu les thématiques qui me poursuivent depuis des années. C'est l'envie de parler du vivant de manière générale, mais plus précisément du vivant contrôlé à l'heure d'aujourd'hui auprès des plus jeunes et de le faire avec beaucoup de douceur. Et puis l'envie aussi de parler de personnages féminins très forts, des personnalités qui sont des femmes fortes, quoi, de par leur connaissance de la botanique. Et voilà, donc c'est un spectacle avec vraiment un moment un peu sombre au début, hein, c'est quand j'explique ce monde-là. Et puis après, il y a toute la libération et puis la découverte du monde végétal, de ses couleurs, du monde sauvage.
Justement, on va y revenir sur ces différentes thématiques et ces différents mondes qui s'opposent. Mais j'ai d'abord envie d'aborder avec toi ce qu'est le théâtre d'ombre, parce que ça peut être plusieurs choses différentes. Tu as la particularité d'utiliser des vidéos projetées pour construire ce décor et tu utilises différentes techniques pour projeter ces ombres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ?
Oui, alors sans trop vous dévoiler, il y a vraiment un parti pris dans la mise en scène sur ce spectacle. C'est d'abord d'expliquer aux enfants comment on fait de l'ombre avec un dispositif très très simple, c'est-à-dire juste une source lumineuse, ça peut être une lampe, et puis une marionnette. Et puis tout va se complexifier un petit peu, s'étoffer au niveau du vocabulaire visuel. Et quand je passe derrière l'écran, en fait, je vais pouvoir incarner cette marionnette en ombre puisque je me situe entre l'écran et entre le vidéoprojecteur. Donc, il n'y a pas tant que ça de vidéo, en fait, dans ce spectacle. C'est vraiment des moments où l'ombre est fabriquée en direct. Il y a plusieurs sources différentes qui nous permettent, avec Julien qui est avec moi au plateau, de créer ces ombres-là. Donc on a aussi des décors qu'on fait venir et qu'on retire en direct. Tout se construit, c'est ça qui est magique, c'est que c'est du vrai spectacle vivant. Il y a un moment d'animation que j'ai décidé de garder parce que c'est au début du spectacle et j'avais envie de garder cette histoire dans l'histoire où c'est presque comme un petit dessin animé que les enfants découvrent. Et voilà, donc c'est vraiment construire les ombres devant les enfants pour qu'ils comprennent que tout ce qu'ils vont voir ensuite, c'est fait en direct.
Et au sujet du décor, justement, ce doit être un travail quand même conséquent de faire évoluer le décor en même temps que l'histoire se raconte.
Oui, en fait, on a travaillé ça pendant plusieurs temps. Hein. Ça s'est étalé sur 2 ans. On a eu des temps de résidence pour travailler principalement la marionnette. D'autres, c'était vraiment autour du costume. Donc là, c'était plus corporel et on est plus presque dans le travail du geste et un peu chorégraphié. Au départ, j'étais censée faire toute seule de la marionnette sur ce spectacle. Et on s'est rendu compte qu'avoir un technicien avec moi au plateau, ça nous permettait de déployer encore plus de possibilités. Donc, j'ai ce relais avec Julien qui est arrivé. Et donc, on s'en est servi complètement. On est allé jusqu'au bout de la proposition de ce qu'on pouvait faire à deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où moi, je suis devant l'écran au début. Et puis, je fais vivre ma marionnette, c'est-à-dire celle de la petite Lily. Et puis, il y a le personnage du crapaud qui apparaît derrière. Bah, tout ça, ça a été des temps très importants à travailler en résidence.
Tout à l'heure, tu le disais, il y a différentes thématiques d'aborder. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'histoire commence dans un monde sous contrôle permanent. C'est un monde où les habitants sont surveillés par les hauts décideurs. On parle là plutôt d'un monde rude et on verra aussi que ce monde d'ailleurs n'est pas que ça. C'est important pour toi de ne pas chercher à raconter quelque chose d'idéalisé. C'est pas forcément comme ça que toi tu veux t'adresser aux enfants.
Oui, ça c'est vraiment mon postulat. J'ai besoin de transmettre le monde tel que moi je le perçois auprès des enfants. Et c'est marrant parce que je l'explique très souvent, mais ce qui me vient là aujourd'hui comme réponse, c'est plus... Moi, je suis une adulte avec une âme d'enfant. J'ai jamais complètement grandi. J'ai jamais basculé dans le monde des adultes. Je me sens pas. Je me sens pas totalement. J'ai toujours cette petite lumière de que peuvent avoir les enfants. Et donc, c'est la manière dont j'habite le monde. Elle est difficile. Elle est rugueuse. Il y a plein de choses qui me dépassent en politique et notamment sur la manière dont notre planète est gérée. Et voilà, ça occasionne aussi pas mal d'éco-anxiété chez moi. Et tout le travail, c'est d'aller rechercher quelles sont les petites possibilités d'espoir, en fait, pour la génération de demain. Et puis, forcément, en tant que jeune maman, ça m'a aussi beaucoup questionnée d'avoir un enfant qui arrive sur cette planète. Comment il va faire pour habiter? Comment est-ce que je vais faire pour lui raconter ce monde-là? Donc c'est comme ça que le spectacle est né. En tout cas, je trouve que c'est super important de parler de ces sujets-là aux enfants et ne pas leur faire croire qu'on habite un monde de bisounours. C'est pas possible. Ça va le risque avec ça d'éviter les sujets d'adultes, les sujets qui fâchent. C'est que un jour ça va leur tomber dessus et ça va être doublement difficile.
Mais dans ce monde-là, il y a quand même un peu d'espoir, notamment je pense à l'arrivée du monde plus sauvage. Il y a un très joli travail des couleurs et tu parles aussi donc à ce moment-là du rapport de l'humain à ce monde de la nature, à ce monde animal. Et ce qui est très beau dans ce monde de la nature, c'est qu'il y a une sorcière. Mais cette sorcière, ce n'est pas une méchante, une femme aigrie, c'est une femme plutôt puissante grâce à son indépendance et à sa connaissance des plantes. C'est intéressant de repenser les codes que l'on a peut-être déjà trop vus et qui nourrissent beaucoup de stéréotypes dès le plus jeune âge. Je pense au personnage justement de la sorcière.
Oui, je pense que c'est important. On peut aussi s'amuser à aller à fond dans le stéréotype. Là, ce qui m'intéressait, c'était... J'avais envie que cette sorcière, elle est plus, c'est plus une femme qui serait une druidesse, si on veut. Elle n'est pas en train de dévorer des enfants et avoir des rites de sacrifice ou quoi. C'est pas une méchante sorcière telle qu'on peut les imaginer dans certains contes. Mais j'avais envie quand même. Je me suis renseignée évidemment autour de la question de la sorcière et forcément quand on se renseigne sur le sujet, on comprend très vite que c'est une figure emblématique du féminisme et donc voilà, il y a un océan de possibilités de comment on parle des femmes. Si j'ai envie de parler d'une femme qui est indépendante, quelle forme ça va prendre? Et moi c'était évident puisque je parlais de vivant contrôlé. Je voyais un parallèle très clair entre ce monde qui est dirigé par des hommes et qui dirige le vivant, qui abîme la planète. Je vois un lien très fort entre ça et puis la manière dont on a traité les femmes jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est par ce cheminement que je suis arrivée jusqu'à cette sorcière qui habite seule dans les bois et qui a tout un tas de petits oiseaux merveilleux qui vivent à ses côtés, qui sont ses enfants. Et voilà, donc c'était donc d'une part important de parler de cette sorcière et puis de parler de son environnement, le monde sauvage. Pour moi, le monde, c'est un monde qui doit rester inhabité. On peut passer à côté, on peut le traverser, mais on ne doit pas s'y installer et y mettre sa maison. En tout cas, on a bien conscience, les enfants ont bien conscience que Lily, elle arrive dans cet environnement, elle est émerveillée et aussi un peu inquiète, parce que le monde sauvage, c'est aussi inquiétant. Mais en tout cas, elle doit retourner chez elle. Et ça, c'est important pour moi.
Et donc, ce spectacle de marionnettes, ce spectacle d'ombre, il est aussi musical. Tout au long de la pièce, tu interprètes des chansons que tu as composées. La partie musicale est même particulièrement importante, en fait, dans ce spectacle. Comment tu l'as pensé ?
J'ai composé les deux en même temps, c'est-à-dire que j'ai avancé sur le spectacle pendant que j'avançais sur les morceaux, puisqu'il y a aussi un album que je défends qui a sa propre vie autour du spectacle. De toute façon, quand je compose de la musique, j'ai toujours des images en tête. Donc j'écrivais ces morceaux avec l'idée que ça allait permettre au récit de se déployer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai depuis des années. En tout cas, maintenant, c'est vraiment intimement lié. Tout est très imagé quand je compose. Donc, le spectacle, naturellement, c'est construit autour de ces morceaux. Après, j'avais aussi des images d'ombre. Et donc, parfois, j'ai écrit ma musique pour servir l'image. Et parfois, c'était plus inversement.
Et donc, pour terminer, là, on parle d'un spectacle pour les enfants, mais je suis convaincue que les adultes seront aussi totalement séduits, emportés par les graines oubliées, parce qu'il y a des niveaux de lecture différents, peut-être forcément pour un adulte. Ces mondes, ces thématiques font tout de même écho, mais à un autre niveau.
Ouais, complètement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, moi, je me situe un petit peu encore entre l'enfance et l'âge adulte. Je fais des allers-retours entre les deux quand j'ai créé un spectacle dit jeune public, finalement, c'est pas le bon terme, c'est plutôt un spectacle familial. Je sais que ce sont des familles qui vont venir voir les représentations. On fait aussi beaucoup de représentations scolaires et ça, c'est tout un autre travail pédagogique qu'il y a autour. Mais l'intention première, c'est de s'adresser à des adultes et à des enfants et de se dire comment faire pour que les deux passent un super moment. Et puis, y a aussi cette idée qu'on passe 45 minutes à découvrir du spectacle vivant et on ressort de là avec des questions. Et c'est peut-être un spectacle qui va hanter les gens pendant très longtemps parce qu'ils y auront vu des images très fortes et qu'ils auront ressenti des choses très fortes. Et ce que j'aime avec ce spectacle, c'est que l'enfant va forcément s'adresser à l'adulte derrière en redemandant, en reprécisant. Mais pourquoi la sorcière ? Voilà, il va y avoir plein de questions autour et je trouve ça beau, en fait, ce lien qui se tisse à la fin d'une représentation et de se dire que ça s'inscrit dans le temps. Et ça, je trouve ça génial. Pour moi, c'est ça, le spectacle vivant. Et je ressens la même chose quand je vais au cinéma. Ça peut arriver pendant 2 mois, je vais être en boucle sur une scène d'un film parce qu'elle a vibré très, très fort en moi et elle génère des interrogations, des discussions, des échanges derrière. Donc voilà, j'ai pensé aussi à tout ça quand j'ai écrit le spectacle.
Merci Oriane d'avoir passé ce moment avec nous. Je le rappelle, le spectacle Les Graines Oubliées se jouera donc le 6 mars à 15h au 40 à Laval. Il y a également une initiation à l'ombre prévue toujours le mercredi 6 mars à 18h30 et à 20h à la bibliothèque de la Chapelle Antenaise. Cette initiation est gratuite sur réservation. N'hésitez pas à contacter la bibliothèque pour vous y inscrire. Merci encore Oriane.
Merci.
Bon, et bien, cette douceur, j'ai envie de la prolonger encore un peu avec vous, amis auditeurices. Ce morceau, c'est une caresse sur la joue, une chatouille dans les oreilles.
Je me baladais, j'étais perdue. Quand je t'ai croisé, belle inconnue. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu. Mais Cupidon n'a pas décoché.
C'était donc Cœur croisé de Polo and Pan. L'actu en bref commence aujourd'hui au Salon de l'Agriculture à Paris. Vous le savez sans doute, mardi, la Confédération Paysanne a mené une action remarquée au stand de Lactalis pour faire entendre leurs revendications suite au silence du PDG mayennais Emmanuel Beignet. Une action sans heurte et violence de la part du syndicat qui a fini par être évacué par le service de sécurité. Et toujours au Salon de l'Agriculture, comme chaque année, une délégation mayennaise composée de la préfète, des députés ou même du président de la Chambre d'Agriculture de la Mayenne se sont rendus sur place en commençant par le stand Lactalis pour un échange avec son PDG en continuant auprès des producteurs locaux et des élèves de l'Agricampus. C'est maintenant la 10e édition cette année pour le festival Un singe en été à Mayenne. De nouveaux noms se sont ajoutés à la programmation hier et une 3e scène dans la cour du château a été annoncée, plutôt dédiée à des artistes techno et électro. D'ailleurs, 4 autres festivals collectifs mayennais seront présents pour cette nouvelle édition. On peut noter les 3 éléphants au foin de la rue, le Back Home Festival et Zéro Tapage via des bénévoles qui mixeront sur la scène du château vendredi et samedi soir. Toute la programmation est disponible sur leur site internet et évidemment sur les réseaux sociaux. Un dernier nom reste encore à être révélé. Et pour terminer, le collectif Borderline Comedy Club propose ses premières dates à Laval, une scène ouverte à destination du stand-up. Autant dire des rendez-vous à ne pas manquer et surtout à bien noter dans vos agendas. Ça commencera le mercredi 6 mars au Jardin Bavarois, ensuite le samedi 9 mars au Gardens Pub à Mayenne, puis le collectif se rendra au Beauty Bar à Laval le vendredi 5 avril. Une très bonne nouvelle que l'agité du local suivra de près, évidemment, faites-moi confiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les petits aujourd'hui? Mamie Denise, je sais que tu n'es pas à court d'idées, mais tu attends ce point météo sans doute avec impatience pour prendre une décision. Bon, j'ai regardé attentivement s'il y avait un village qui résistait encore à la pluie dans le département aujourd'hui. Eh bien, Denise, non. Du vent qui ira jusqu'à 50 km/h. Et si on regarde le thermomètre, 10 degrés à Ernée, 13 à Château-Gontier, 12 degrés à Évron et 11 degrés à Laval. Et vous allez me demander, mais que se passe-t-il ensuite? Denise, vous me posez la question de ce qui est attendu pour demain, très certainement. Eh bien, je n'ai qu'un mot à la bouche pour vous et tous les auditeurs. Denise, c'est la pluie. Quoique j'en ai un autre, du vent encore, allant jusqu'à 55 ou 60 km/h même. Moi non plus, Denise, je ne suis pas emballée par cette situation, mais c'est comme ça et les degrés se font la malle, eux aussi. 7 degrés à Lehors, dans le Nord-Mayenne, 9 degrés à Laval, 10 degrés à Château-Gontier. Les petits, on peut les sortir, bien sûr, Denise. Tenez-les bien qu'ils ne s'envolent pas dans un coup de vent. Capuche étanche et tout se passera donc sans accroc. Use It, est-ce que vous connaissez? C'est un réseau européen qui confectionne des cartes alternatives et gratuites pensées pour s'approprier la ville autrement. Ces guides de papier sont créés par des collectifs locaux à destination des jeunes voyageurs et voyageuses pour les accompagner dans la découverte de la cité. Depuis 2015, l'association Salut Monde édite la carte guide Use It Nantes, réactualisée chaque année. C'est notre reportage Pensée locale de la semaine. Il est signé Esteban Pina de Prune, qui est allé à la rencontre de Mariette Fulpin, présidente de l'association Salut Monde, pour en savoir plus sur la conception de ces cartes faisant la part belle aux initiatives locales.
Pensée locale, un enjeu de société. une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Depuis 2015, l'association Salut Monde édite les cartes guides Use It Nantes. Ces cartes gratuites, créées par des jeunes locaux à destination des jeunes voyageurs et voyageuses, sont des cartes alternatives pour s'approprier la ville autrement. Mariette Fulpin, présidente de l'association Salut Monde, présente au micro de Prune la conception de ces cartes faisant la part belle aux initiatives locales.
Merci.
Bienvenue à la Maison de l'Europe, Europe à Nantes. Notre carte, elle est à destination des jeunes voyageurs à la base, plutôt 18-30 ans. Mais le contenu qu'on y retrouve est utile et utilisable du coup par toutes et tous. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du coup des bonnes adresses recommandées par les locaux qui vont garantir le fait que quand on passe le pas de la porte, on a des gens sympas derrière le comptoir, qu'on va pouvoir boire le muscadet le moins cher en l'occurrence pour Nantes. C'est en anglais, mais c'est de l'anglais facile, fait par des Français. Ça fait un bon exercice, notamment si vous mettez la carte dans les toilettes, ce qui est une recommandation usage, comme ça. Une petite légende à chaque pause. La particularité du coup des cartes Usit, c'est un réseau européen avec à chaque fois des équipes de jeunes qui vont être passionnés par leur ville et vouloir en faire découvrir les précieuses adresses. Voilà. L'association Salut Monde est aux manettes de l'édition des cartes guides Use It Nantes. On est une équipe actuellement 100% féminine et Use It, c'est aussi un label européen avec plein d'autres jeunes passionnés par leur ville qui éditent aussi des petites cartes carrées papier avec toutes leurs bonnes adresses pour les jeunes voyageurs. Et donc chaque année, toutes les personnes qui éditent des cartes sont invitées au séminaire annuel qui bouge de ville en ville et donc du coup aussi de pays en pays. Et nous accueillerons Nantes le Use It Meeting 2025.
Ces cartes pensées par les jeunes locaux s'appuient sur un travail de collectage d'adresses par l'association Salut Monde qui applique des critères de sélection précis afin de dénicher les bonnes adresses et les initiatives locales.
Avec quelques recoupements, on voit les adresses qui sont du coup les plus plébiscitées. On se permet de les valider à travers notre spectre Use It, donc pas de chaîne, même si nationale ou quoi. Le but, c'est d'avoir le plus d'authenticité possible, d'être sur des commerces et des initiatives locales. Donc voilà, donc ça va être pas de chaîne. Est-ce que c'est vraiment un lieu fréquenté par les jeunes ? Est-ce qu'on n'est pas sur la nouvelle adresse hipster ouverte il y a 2 mois ? Parce que même si on est peut-être les premiers à la kiffer, c'est pas encore un endroit qui est assez éprouvé et approuvé dans la vie locale pour le mentionner. Voilà.
Les cartes Use It Nantes sont reconnaissables par leur esthétique particulière, laquelle se veut être en résonance avec l'identité de la ville. Mariette Fulpin nous précise comment est pensée la conception graphique de ces cartes guides.
Donc du coup, on avait plutôt bossé avec directement des designers graphiques pour les 5 premières éditions. C'était Louis Schaeffer, un des cofondateurs de la première équipe qui a réalisé les 3 premières éditions. Et puis, du coup, quand on a repris avec Hélène Burel l'association en 2016, eh bien, du coup, elle s'est occupée de la DA, de la numéro 4, le petit biscuit, de la numéro 5, la rose et rouge post-confinement qui a été victime de son succès avec ses bonnes vibes. Et cette année, on a voulu, du coup, changer un petit peu la donne et, du coup, connaître aussi l'expérience de bosser avec une illustratrice. Et donc, c'est Laura Lefloc. Pour la petite anecdote, la carte numéro 4, la plus éponyme avec le petit beurre cassé. Justement, ça a été beaucoup de tests de la part d'Hélène avec un petit beurre et un marteau. Et bien sûr, en tant que communicante, moi j'ai trouvé le storytelling à la fin en disant oh, « c'est bon, ça fait la Loire et les affluents, c'est super !» Il y a l'île de Nantes ici, c'est top. Sur chaque édition, moi la première, mais je sais que c'est partagé, je suis en mode « bon alors du coup, ça je connais pas, oh ça a l'air trop bien, etc. » Donc voilà, la to-do list pour les prochaines excursions, bien sûr.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Esteban pour Prune.
Si vous venez de nous rejoindre, je me dois de vous dire que vous êtes là maintenant, tout de suite, à l'écoute de l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Alors installez-vous confortablement puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Priscilla, ou plutôt Maître Mignard. Elle est avocate mais aussi chroniqueuse dans cette émission. On sourit avant même qu'elle ouvre la bouche. Priscilla, c'est à vous.
Salut mes défenseurs de la veuve et du mocassin. Moi aussi, je m'aime beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler du droit à une justice indépendante et impartiale. Vous me direz, Priscilla, impartialité et indépendance sont de bien grands mots, qui rapporteraient de nombreux points au Scrabble et que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs auraient bien du mal à épeler.
En effet, pouvez-vous nous expliquer ces concepts ?
Mais bien sûr, mes petits gardiens de prison du Monopoly, que ne ferais-je pour vous ? L'indépendance et l'impartialité sont deux principes fondamentaux de la justice moderne qui garantissent aux justiciables que l'acte de juger sera seulement déterminé par les arguments du débat judiciaire, en dehors de toute pression ou de tout préjugé. L'impartialité et l'indépendance de l'autorité judiciaire sont notamment inscrits à l'article 64 de la Constitution française et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces principes sont plutôt bien établis en France.
Et grâce à quelles règles alors ?
Alors tout d'abord, leur application résulte de la séparation des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Même si franchement, séparer les jaunes des blancs d'œufs pour les battre en neige, moi j'y arrive pas. Il y a toujours une coquille qui vient s'incruster. Et puis mes blancs ne montent jamais en neige, ça marche même pas le truc de Cyril Lignac de mettre du sel. Bref, je lui voue une détestation éternelle, mais ce n'est pas le propos de ce jour. La séparation des pouvoirs dans les démocraties, normalement, ça fonctionne mieux que mes talents culinaires. Ainsi, en gage d'indépendance avec le pouvoir politique, les magistrats du siège ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique des ministres. Ils sont inamovibles et leurs décisions ne peuvent pas être contestées que dans le cadre de l'exercice des voies de recours, les mettant ainsi à l'abri des pressions qui pourraient peser sur leur faculté de juger. Néanmoins, rien ne leur interdit de boire une petite pression pour faire baisser la pression quotidienne en retirant une pression de leur pantalon. Parce que quand même, la bière, ça ballonne. Ils sont humains, après tout.
Mais il existe plusieurs genres de magistrats, non ?
Oui, il existe deux types de juges, basiquement, les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Je vous explique la différence parce qu'en la matière, c'est un peu comme dans le rap. Vous connaissez sûrement Big Flo et Oli ? Ah oui, seulement personne ne sait distinguer qui est Big Flo et qui est Oli. Big, c'est pour le gringalet ou c'est celui qui a l'allure de mon petit neveu de 15 ans avant que sa mue adolescente ? Je saurais jamais. En revanche, je peux vous expliquer la distinction concernant les juges. En matière pénale, les magistrats du siège, si vous ne le savez pas, sont ceux qui jugent et prononcent les condamnations. Accessoirement, ils restent assis pendant l'audience, d'où l'expression « siège », une histoire de fesses en somme. En revanche, les magistrats du parquet sont debout lorsqu'ils parlent. Ils sont, eux, soumis à un lien hiérarchique avec le garde des Sceaux. Cela peut choquer quand on pense que c'est le parquet qui est à l'initiative des poursuites pénales et qu'on pourrait craindre qu'il reçoive des ordres du ministre de la Justice pour poursuivre ou non certaines personnes, éventuellement dans des intérêts politiques. Mais à bien y réfléchir, c'est logique qu'on garde un sceau près de soi quand on arpente les parquets, ménage oblige.
Y a-t-il d'autres garanties de l'impartialité de la justice ?
Oui, en parallèle, en gage d'impartialité, les magistrats peuvent être récusés en cas de soupçon de lien de proximité ou de connivence avec les parties, de nature familiale ou professionnelle par exemple. Car selon l'expression, on ne peut pas être juge et partie, alors qu'on peut être cordier juge et flic. Ok, je sors. Pour conclure, mes petits jurés de The Voice, restons sur nos gardes car si les textes fondamentaux du droit français prévoient des garanties à destination des justiciables, de code pénal à code vénal, il n'y a qu'une lettre. La loi devant pourtant s'appliquer au pied de la lettre, n'est-ce pas ? Je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup Priscilla, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Oriane aussi d'avoir été avec moi pour la première partie de cette émission. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous on s'arrête, ça continue sur l'autre radio, pardon, et tout commence ce soir à 19h avec Eldorado. C'est une émission consacrée aux musiques folk et rock et par extension toutes les musiques populaires nées en terre américaine. Le principe est très simple, passer de bons titres de musique pour le simple plaisir de vous les partager et d'en parler. Ensuite, ça continue à 21h avec All Blues et on pourrait presque dire All Jazz, même ce soir, pour tous ces amateurs qui ne seront pas déçus. Nous, on se dit à demain pour une très belle émission. Je serai en compagnie de Nicolas Jallot, réalisateur du film Le Dernier Combat des Gueules Bleues, qui raconte l'histoire des ardoisiers mineurs en Anjou, quand au XXe siècle, l'Anjou devenait le premier producteur mondial d'ardoises. D'ici là, mettez du son dans vos oreilles, chatouillez-les avec ce qui vous touche, vous fait du bien parce que le week-end n'est pas encore là. Prenez soin de vous surtout et faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.